Au cours de la réalisation d'un tableau, il y a toujours un moment où l'on se dit que ça ne vaut rien. Le tableau en devenir, en instance d'être, a perdu sa forme discrète pour aller de l'état d'achèvement vers le presque rien. La toile et les couleurs sont là et pourtant il a déjà franchi une frontière. Il s'est défait dans l'arrière-plan homogène des objets qui l'entourent. Il m'arrive de faire cette constatation le jour suivant en arrivant à l'atelier. Je me dis alors que j'ai fait fausse route, que j'ai conduit le projet dans le mur. Il ne faut pas minimiser les embûches sur la voie qui mène à la concrétisation du tableau, bien qu'il soit plus dangereux encore de leur prêter attention, car si l'on a peur, rien ne va plus.
C'était qui ?
Ces phrases sont de Anselm Kiefer, qui est ce soir notre invité. Mais oui, c'est dans vos leçons au Collège de France. Vous êtes fier de ce que vous avez écrit, mais c'est bien vous qui l'avez écrit.
Non, parfois je le reconnais pas. Vous comprenez ?
Eh ben, pourtant.
Je lis quelque chose et je dis, c'était moi.
Oui.
C'est drôle, non ?
Mais est-ce bien vous dans le studio, Anselm Kiefer ?
Ça, on ne sait pas. Hein.
Bon, on va savoir tout à l'heure. Mais chez nous, vous savez, à l'heure bleue, on commence tous les soirs par une musique. Et pour vous, on a choisi Barbara, le soleil noir. Ça vous va ?
Oui, Barbara, c'est bon.
Très bien, Barbara.
Pour ne plus jamais plus vous parler de la pluie, plus jamais du ciel lourd, jamais des matins gris. Je suis sortie des brumes et je me suis enfuie sous des ciels plus légers, pays de paradis. Oh, que j'aurais voulu vous ramener ce soir, des mers en furie, des musiques barbares, des chants heureux, des rires qui résonnent bizarres. Et vous ferez le bruit d'un heureux tintamarre, des coquillages blancs et des cailloux salés qui roulent sous les vagues mille fois ramenés, des rouges éclatants, des soleils éclatés dont la feu brûlerait d'éternels étés. Mais j'ai tout essayé, j'ai fait semblant de croire, et je reviens de loin, et mon soleil est noir. Mais j'ai tout essayé, et vous pouvez me croire, je reviens fatigué, j'ai le désespoir. Légère, si légère, j'allais court vêtue, je faisais mon affaire du premier venu, et c'était le repos, l'heure de nonchalance. À bouche, que veux-tu, et j'entrais dans la danse. J'ai appris le banjo sur des airs de guitare, j'ai frissonné du dos, j'ai oublié Mozart. Enfin j'allais pouvoir enfin vous revenir avec l'œil à longue vague de souvenirs. Et j'étais l'ouragan et la rage de vivre, et j'étais le torrent et la force de vivre. J'ai aimé, j'ai brûlé, rattrapé mon retard, que la vie était belle et folle mon histoire. Mais la terre s'est ouverte là-bas quelque part, mais la terre s'est ouverte, le soleil est noir, les hommes sont murés tout là-bas quelque part, les hommes sont murés et c'est le désespoir. J'ai conjuré le sort, j'ai recherché l'oubli, j'ai refusé la mort, j'ai rejeté l'ennui, et j'ai serré les poings pour m'ordonner de croire que la vie était belle, fascinant le hasard qui me menait ici, ailleurs ou autre part. Où la fleur était rouge, où le sable était blanc, où le bruit de la mer était une chanson. Oui, le bruit de la mer était une chanson. Mais un enfant est mort là-bas quelque part, mais un enfant est mort et le soleil est noir. J'entends le glas qui sonne tout là-bas quelque part, j'entends les glaces sonner, c'est le désespoir. Je ne ramène rien, je suis écartelée, je vous reviens ce soir, le cœur est gratigné, car de les regarder, de les entendre vivre, avec eux j'ai eu mal, avec eux j'étais ivre. Je ne ramène rien, je reviens solitaire, du bout de ce voyage au-delà des frontières. Est-il un coin de terre où rien ne se déchire? Et que faut-il donc faire, pouvez-vous me le dire? S'il faut aller plus loin pour effacer vos larmes, et si je pouvais seul faire taire les armes, je jure que demain je reprends l'aventure, pour que cesse à jamais toutes ces déchirures. Je veux bien essayer, et je veux bien y croire, mais je suis fatiguée et mon soleil est noir. Pardon de vous le dire, mais je reviens ce soir, le cœur est gratigné, et j'ai le désespoir. Le cœur est gratigné et j'ai le désespoir.
Que veut dire être un artiste aujourd'hui pour vous ?
Alors d'abord, je voulais dire quelque chose sur ce que vous avez lu.
Ben, j'ai trouvé ça pas mal, moi.
Oui, parce que mais j'ai avancé un peu quand même. Alors maintenant, je dis...
Vous êtes plus sûr de vous, alors ?
Non, non.
Non, toujours non. Aussi angoissé.
Non, non, mais non, je dis... Non, non. Je dis, c'est pas un certain moment où on croit que c'est rien. Je dis, je commence en savant. Déjà, ce que c'est rien. Je commence avec la négation de l'œuvre. Parce que je ne crois pas que les néants, c'est d'abord et puis il y a quelque chose. Je dis, c'est toujours ensemble. Il n'y a pas une chronologie du néant et puis l'être. C'est une entité indivisible. Alors, comme ça, je suis moins désespéré parce que je sais au commencement, c'est comme ça.
Ce qui vous intéresse, c'est le non-advenu, ce qui n'existe pas encore, Anselme Kiefer.
Ah oui, mais si je pouvais pas être surpris, je stopperais tout de suite à travailler, parce que c'est mon motif d'être surpris ce qui se passe.
Surpris par quoi? Alors, ça peut être une lumière, ça peut être le bleu du ciel, ça peut être un chant de coquelicot, ça peut être un tableau dans un musée.
Il y a deux choses. Il y a le Ubarachon.
La surprise.
La surprise dans le monde et la surprise quand je travaille. Alors, dans le monde, il y a toujours des surprises. Et ça peut être un truc de musique, un paysage, une certaine lumière. Et après, c'est un choc pour moi. Si c'est un choc, je commence à travailler. Mais la surprise pendant le travail, c'est la motivation. Parce que si j'avais pas des surprises, Je stopperai à travailler. C'est la seule récompensation.
Ah oui, la seule récompense, oui.
Récompense, c'est la surprise.
Oui, mais la surprise de quoi ? La surprise de l'inscription sur une toile de quelque chose que vous allez y déposer, que ça soit une fleur ou,
oui, non,
une concrétion,
non, la surprise,
ou une couleur.
Que le tableau devient tout à fait autre, se renverse. Où se widerspricht sich,
se contredit lui-même.
Où il y a des layers.
Des couches qui glissent les unes sur les autres.
Qui se superposent et qui se contretiquent et tout. Et tout. Ça peut être toutes sortes de choses.
Alors la superposition, vous aimez beaucoup ça, Anselme Kiefer.
Oui.
C'est presque une méthode de travail durant pas mal de cycles d'œuvres.
Je crois que c'est la réalité. Tout est superposé dans la vie, dans l'histoire. Ça superpose toujours. Il n'y a jamais une seule une Ebene.
Il n'y a jamais un seul niveau.
Il n'y a jamais un seul niveau. Il y a toujours des niveaux au-dessous et il y aura des niveaux au-dessus.
Quand on voit une pierre, quelquefois, il y a une pierre au-dessus, il y a une pierre en dessous.
Même la pierre raconte une histoire.
Vous travaillez beaucoup les pierres aussi.
Ah oui,
les géologues.
Hein. Les géologues, ils peuvent... Dans une pierre, il peut vous montrer une histoire de millions d'années. C'est très intéressant.
Mais on peut dire que vous êtes un peintre archéologue ou géologue aussi.
Oui, je suis un peintre. J'en comporte toutes les sciences. Alors j'ai fait, l'année passée, je crois, j'ai fait une exposition à Londres, String Theory. Alors je me suis enfoncé dans le String Theory. Mm-hmm. C'est presque impossible.
La théorie des cordes.
Oui, la théorie des cordes.
Et c'est quoi la théorie des cordes?
C'est une théorie cosmologique.
Oui, c'est une théorie. Ça peut être une Weltformel. Weltformel.
Mmh. Une théorie des formes. Mmh. Et de formules du monde.
Et ça va au plus petit, au-dessous des atomes. Alors, ce sont des particules de 10 potence minus 37.
Oui, 10 puissance moins 37.
Oui. C'est vraiment petit. Et ça veut dire qu'il n'y a pas une organisation stable, c'est tout interwoven.
Tout est entremêlé, entrelacé.
Entremêlé, et il y a c'est une chose mathématique. Hein. Mm-hmm. Par exemple, ils font un essai, s'ils enlèvent un string, qu'est-ce qui passe?
Si on enlève une corde
Tout tombe, ou il y a une nouvelle construction. Ah, c'est très intéressant.
Je vous savais très intéressé et passionné par la Kabbale depuis longtemps, Sem Kiefer, mais je ne savais pas que c'était la théorie des cordes qui maintenant vous préoccupait. Est-ce que les deux vont ensemble ?
Absolument. Oui, parce que la Kabbale, ça veut, ça explique le monde, le commencement du monde, d'une autre façon que le catholicisme, complètement différent. Par exemple, Isaac Loria, dans le 17e siècle, il a fait une théorie du commencement du monde. Il n'a pas dit qu'il y avait quelqu'un qui créait avec de l'argile les hommes et les animaux. Il a dit Dieu, qui est tout, il a laissé un endroit libre, empty, libre,
vide, oui.
vide, pour que le monde peut se développer lui-même. Ça, c'est smart. Parce que.
Very smart, comme vous dites.
Oui. Non, parce que les théologiens du christianisme, ils ont toujours le problème que Dieu est le bon, mais il y a les guerres, il y a toutes ces choses affreuses. Et c'est la théodicée. Vous savez, à travers toute la philosophie, chacun, Kant, Hegel, ils ont tous essayé d'expliquer que Gott est bien, mais comment il est bien? Alors Leibniz, vous savez, il a dit, c'est le monde le plus parfait au monde, Leibniz.
Le meilleur des mondes possibles.
Oui. Et puis il y avait le truc en Portugal, de Lisbonne. Mm-hmm. Le tremblement, et tout était cassé, et puis on a recommencé. Vous savez, Diderot a fait des blagues sur Leibniz. Diderot. C'était Diderot ou... Un Français qui se moquait de ce monde, la meilleure du monde, c'était qui ? Aidez-moi.
Oui, alors là, je ne sais pas.
C'est difficile avec vous, oui. Hein ?
Non,
parce que vous êtes Pic de la Mirandole, Anselm Kiefer.
Qu'est-ce que c'est Mirandole ?
Pic de la Mirandole, c'est un homme qui savait tout, qui était un encyclopédiste du savoir.
Vous voyez que je ne sais pas, que je ne sais plus.
Bah
Candide,
c'est Voltaire.
Candide, c'est Voltaire. Ah, et c'est le même Voltaire qui a écrit sur le tremblement à Lisbonne.
Oui, et lui,
il
a fait ridicule Leibniz.
Qui voulait un monde certain.
Le meilleur du monde possible, imaginez-vous.
Vivons-nous dans le meilleur des mondes possibles aujourd'hui, à votre avis, Anselm Kiefer ?
Aujourd'hui, on voit que le mal... Ce que on croyait un peu domestisé après la guerre, le nazisme, rebond partout. En Allemagne, ici aussi, et en Pologne. Et j'ai toujours dit, il n'y a pas une heure zéro. Parce qu'en Allemagne, on a dit 45, mais non, la démocratie, c'est zéro. On recommence, on a bâti le pays. Mais j'ai dit, ça n'existe pas. C'est toujours là, tout est là. Et ça revient. Ça, c'est comme un... Vous savez, quand vous avez un schlamm...
Oui, de la boue. Enfin,
vous
bourbier.
Avez de la boue, et vous le couvrez avec une petite surface, et puis ça fait bloup, bloup. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Oui, il y a des bulles qui remontent.
Des bulles qui remontent, toujours.
Mais vous qui avez eu un passé très douloureux, vous qui êtes né dans un hôpital bombardé pendant la guerre, Anselm Kiefer, vous qui avez beaucoup travaillé en tant qu'artiste sur... Justement, les souvenirs et les tourments vénéneux de l'Allemagne nazie. Comment vous comprenez qu'aujourd'hui, l'extrême droite triomphe avec les idées de mal et de haine de l'étranger, philosophiquement et artistiquement parlant?
Alors, j'ai toujours dit, la boue est là. Et ça va revenir. Alors, d'abord, en Allemagne, on n'avait pas de nouvelles sur ça. Vous savez, dans l'école, on a fait le nazisme 2 semaines. Même Alexandre le Grand, c'était le double, c'était 4 semaines. Après, ils ont commencé, les Allemands, dans les années 70, il y avait beaucoup de télévision qui expliquait. Mais maintenant, les survivants, ils meurent, vous savez, et maintenant, on ne se souvient plus trop. Maintenant, quand on a la télévision Arte ou ZDF Info, on a une chose sur Hitler, ça devient un peu... un star, vous comprenez? Ça se tourne. Hein. On n'est plus attaqué par ça, mais on le voit comme cinéma.
Alors nous, on pensait en France que vous, dans votre pays d'origine, l'Allemagne, Anselm Kiefer, la situation était beaucoup plus stable démocratiquement et que l'extrême droite était terriblement réduite par rapport à ce qui est en train de se produire en France. Je vous propose d'écouter le discours, une partie du discours d'Angela Merkel lorsqu'elle a décidé donc de partir officiellement et qu'elle a pris sa retraite. C'était le 8 décembre, évidemment, dernier.
Je sais que vous arrivez ici avec énormément de motivation. Cette maison est désormais à vous. Et je vous demande de travailler pour le bien de notre pays.
Comment vous avez vécu ça, ce départ d'Angela Merkel ?
Ah, il était temps, hein ?
Ah oui ?
Non, moi je crois que c'est trop. Non, j'aime Angela Merkel, c'est clair. Mais 16 ans, c'est trop.
Nous, on l'admire beaucoup en France.
Oui, moi aussi. Je la connais, oui. Mais 16 ans, c'est trop. Parce qu'on voit toujours, il y a soit ils s'endorment, soit ils deviennent...
Stolz, oui, orgueilleux.
Mais elle pas.
Non, elle n'était pas orgueilleuse. Mais quand même, je crois, 16 ans, c'est trop. C'était le même avec Cole, il avait 16 ans aussi, non ?
Oui.
14 ou...
Et il lui a manqué quelques jours pour le record de Cole.
Est-ce que la fonction de l'artiste, c'est de nous éveiller à une conscience européenne au moment où cette Europe, comme vous venez de le dire, Anselm Kiefer, est terriblement malmenée ? Vous avez parlé de la Pologne, il y a aussi la Hongrie, il y a d'autres pays.
Moi, je ne fais pas la politique du
je
jour.
Sais.
Du jour. Je n'ai pas le temps, vous comprenez ? Mais... je m'intéresse beaucoup, et comme ça, ça va dans le travail. Alors, par exemple, l'Europe, parce que maintenant, la France a
la présidence
de l'Europe, et je me souviens de Valéry. Paul Valéry, ce qu'il a dit sur l'Europe. J'ai lu ça il y a longtemps, mais ça m'a beaucoup impressionné, parce qu'elle a dit, il faut faire attention que l'Europe ne devienne pas un archipel de l'Asie. Parce que ils ne se rendent pas compte de son pouvoir et de ses qualités. C'est toujours mon truc, j'étais toujours pour l'Europe, vous savez.
Et vous avez beaucoup œuvré pour cette Europe, par votre travail artistique, mais aussi par vos prises de position.
Oui.
On a l'impression qu'on est dans un basculement du monde en ce moment. Basculement
oui.
Dont vous avez peut-être été un des visionnaires. Est-ce que l'artiste est un visionnaire ?
Sans se rendant conscience. Mais, par exemple, vous savez, c'est une chose un peu drôle, mais une année ou deux années avant le 9-11, j'ai fait un...
2001.
J'ai fait un tableau, grand tableau, avec un gratte-ciel et un avion de plomb qui va là-dedans. Imaginez-vous. Mm-hmm. Parce que j'ai toujours cru, les deux pénis, là, ils attirent les mouches. Hein.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Les artistes sont comme ça, mais ils veulent pas être ça. Ça se montre tout facile, von allein.
Oui, ça vient de soi-même. Quoi.
De soi-même, oui.
Et aujourd'hui, que peignez-vous en ce moment même ?
Alors, j'ai pendant le corona, j'ai fait beaucoup de peintures sur porcelaine, mais j'ai pris des tableaux des années 70 même, 80, je l'ai jonché, je coupe souvent les tableaux, je les recolle, je les fais plus grands ou plus petits, et j'ai organisé un certain nombre de tableaux sur porcelaine que j'ai utilisé aussi là où il allait mort.
Joseph le Panthéon.
Dans le Panthéon, il y a aussi un tableau pour porcelaine.
Oui, il faut savoir que le président de la République française, vous avez demandé de faire des œuvres pour le Panthéon au moment de la panthéonisation de Maurice Genevoix.
Genevoix.
Et vous avez mis Paul Celan aussi.
Oui. Et j'ai étudié beaucoup. Je connaissais pas Genevoix, mais j'ai étudié beaucoup. J'ai écrit aussi un texte sur Genevoix et son collègue Ernst Jünger. Ils sont très très différents. Et oui, et j'ai travaillé beaucoup sur la Première Guerre mondiale, sur Genevoix. Et j'ai fait quelques tableaux pour le Panthéon.
Ben, je vous propose d'écouter la voix de Maurice Genevoix, qui va évoquer ce que signifie pour lui témoigner. C'est une archivinade du 24 février 1970. Et puis on écoutera la musique de Pascal Dussapin, qui vous a accompagné dans cette panthéonisation
oui.
de Maurice Genevoix.
J'ai voulu témoigner. Si vous voulez, dépouillons les paradoxes.
D'accord.
Entièrement. À l'origine, je témoigne. C'est-à-dire que, comme je viens de vous le dire, j'applique mes dons d'expression, mes dons d'écrivain, disons, même servilement, humblement, à exprimer une réalité donnée. C'est un très bon exercice de style.
Oui, c'est-à-dire que vous avez vécu et vous écrivez.
Voilà. Eh bien, je crois que c'est parfaitement compatible et c'est peut-être plus difficile de se mettre au service d'une réalité pour l'exprimer vraiment dans son essence que de s'en servir pour une affabulation romanesque qui forcément la déforme. Et dans le cas particulier, je sais bien que toute déformation, enfin toute œuvre d'art suppose une déformation. Mais dans le cas particulier, j'ai voulu déformer le moins possible. C'était une contrainte, si vous voulez, mais je crois que c'est une discipline que je m'imposais et qui m'a été très utile et très précieuse par la suite.
Alors, c'est intéressant ce qu'il dit. Alors, j'ai beaucoup lu sur lui, j'ai lu son livre, ceux de 14. Mais ce qu'il dit, il dit, s'il invente des choses, c'est la déformation. C'est intéressant. C'est une théorie. Moi, je dis le contraire. Ce qui est inventé, c'est pas le bon mot. Ce qui est précisé, ce qui est formé, c'est plus réel que la réalité. Parce que je crois la réalité, vous avez des illusions.
J'espère qu'on a des illusions.
Non, vous êtes une illusion.
Ah.
Vous êtes une illusion. Vous n'êtes pas réel.
D'accord. On n'existe pas alors.
Si, dans l'illusion.
Dans l'illusion de soi-même ou dans l'illusion du regard des autres?
Non, je dis un poème. Un poème, un bon, vrai poème, c'est la vérité. C'est la réalité pour moi. Parce que ça, c'est précis.
Pourquoi ? Parce que ce sont des mots qui expriment le rapport au monde.
Oui, ce sont des mots qui ne sont pas tasque-chouette.
Pas témoignage.
Pas du bavardage. Ouais.
Pas de bavardage. Pas les mots maltraités, pas les mots utilisés mal, et tout ça. C'est un moment, une île.
La poésie, c'est une île.
Une île, oui. Et le reste, c'est l'illusion.
Mais depuis très longtemps, Sem Kiefer, à l'intérieur de votre œuvre et des différents cycles de votre œuvre, vous prenez la poésie comme l'art le plus sublime. Prenons un mot de la philosophie allemande.
Oui, ça c'est personnel, parce que moi, je hésitais toujours d'être écrivain, poète, je n'ose pas dire, mais être écrivain ou peintre. J'étais toujours très... Parce que quand j'avais 16 ans, j'avais un succès avec le prix Jean Walter, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un prix français, j'avais le premier prix, et pour mon journal. Et puis, Piper Verlag voulait le publier.
Édition Piper, ouais.
Et quand on a un succès avec cet âge, on croit que... c'était toujours un peu entre les deux, mais je savais qu'il faut... On peut faire qu'une chose, vraiment bien.
Et comment s'est fait le choix de la peinture?
Alors ça,
entre la poésie, la photographie, parce que je rappelle quand même que vous avez beaucoup photographié au début de votre itinéraire d'artiste. Et
oui.
Puis tout d'un coup, vous êtes devenu...
J'ai photographié toujours beaucoup, beaucoup. Je tiens tout ça. Mais c'est ce qu'ont les vieux maîtres en faisant des croquis, c'est normal.
Alors qu'est-ce qui s'est passé pour l'exaltation de la peinture?
Oh, c'est peut-être pas l'exaltation,
si,
mais
quand
c'est
on,
de te
quand
voir.
On regarde, c'est quoi la peinture alors? L'attrait de la peinture?
Vous savez, quand je vois l'asperge de Manet, c'est tellement fantastique. C'est pas la réalité, c'est plus. C'est vraiment. Alors, Manet ou.
Ou Cézanne, les pommes de Cézanne?
Oui, tout. Tout ça, c'est. Je peux pas définir ça, non? Je peux juste dire. comme ces artistes me disent tout, mais surtout Manet, comme il traite, comme il crée un monde, c'est fantastique.
Alors la peinture, c'est la création d'un monde.
Ah oui, c'est un monde. C'est la création d'un monde, mais je parle allemand. Das ist immer der Streit.
C'est toujours un combat.
Zwischen der vom Künstler aufzubauenden Welt.
Entre le monde que l'artiste veut construire.
Und der sich verschließenden Erde.
Et la terre qui se ferme,
qui reste secrète.
Ouais.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Ce que vous dites, Anselm Kiefer, c'est que la peinture, ce n'est jamais la représentation de la réalité.
Non, c'est pas une photographie. Il y a des étapes entre l'objet et la peinture qui font plus qu'une représentation.
Une vision, vous appelleriez ça?
Une histoire, même. Une histoire, parce qu'il y a des étapes. Ou une archéologie, parce qu'on peut, à travers les couches.
Les couches,
on peut aller dans la profondeur. Dans la profondeur, il y a un bohrkern.
C'est comme un forage, quoi.
Et puis, on pouvait voir...
Une carotte de forage.
Ouais.
Mais justement, à l'intérieur de votre œuvre, Anselm Kiefer, il y a toujours l'idée que c'est le tableau qui conduit. C'est pas vous, peut-être. Et d'ailleurs, dans les cours que vous avez donnés au Collège de France, vous expliquez au cours d'un séminaire que quelquefois, quand vous rentrez dans votre atelier le lendemain matin, le tableau a changé, tout seul.
Oui, les tableaux, ils marchent dans la nuit. Ils marchent d'un côté à l'autre, ils se rencontrent, ils font n'importe quoi, comprenez? Et quand j'arrive le matin, c'est surprenant, oui.
Donc vous vous laissez guider par vos tableaux?
Ah oui, oui. Qui peut me guider, sinon? C'est pas Dieu, c'est pas... On peut dire aussi der Zufall.
Le hasard.
On peut dire aussi le hasard. Mais c'est pas vraiment un hasard. Vous savez, Einstein a dit « Gott würfelt nicht ».
Oui, Dieu ne joue pas au dé, a dit Einstein.
Oui, c'est plus que hasard.
Mais diable joue au dé.
Oui, parce qu'il n'est pas omnipotent. Il prend le hasard à son aide, à son assistance.
Oui, à son aide, oui, il se fait aider par le hasard.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Anselm Kiefer, La jeune fille et la mort de Franz Schubert. Thank you.
Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt.
Fugue
er
de
schreibt,
la
wenn es dunkel
ist. Lait noir de l'aube, nous le buvons le soir, nous le buvons midi et matin, nous le buvons la nuit. Nous buvons et buvons, nous creusons une fosse dans les airs, on n'y est pas couché à l'étroit. Un homme habite dans la maison, il joue avec les serpents, il écrit quand le jour s'assombrit en Allemagne, tes cheveux d'or, Margaret. Il les écrit et s'avance sur le seuil de la maison, et les étoiles jettent des éclairs, il siffle, il appelle ses chiens. Il siffle, il rassemble ses juifs, il fait creuser une fosse dans la terre, il nous donne des ordres, il joue, il invite à la danse.
Nous venons d'entendre donc La jeune fille à la mort de Franz Schubert interprétée par le quatuor Amadeus, et puis on a entendu la voix bouleversante, c'est la seule archive de Paul Celan qui reste ici, en tout cas à la radio, ouais, en France. Dire fugue de mort, et vous, Anselm Kiefer, au Palais Éphémère à Paris, on peut découvrir vos œuvres magnifiques, bouleversantes, tout votre travail avec Paul Celan. Cela fait longtemps que vous avez un compagnonnage. Ça fait, je dirais depuis les années 1970.
Non, ça fait exactement 60 ans.
Voilà.
Quand, le poème qu'on a vu, alors le poème le plus simple, alors on peut l'interpréter, il y a des métaphores très très simple, c'est très beau, mais quand même c'est un poème qui n'est pas difficile à comprendre. C'est la première fois que j'ai lu ça quand j'avais 16 ans. Et puis après, ça m'a très frappé, mais après j'ai étudié beaucoup et maintenant je peux dire aussi quelque chose parfois sur les poèmes, les derniers, qui sont abstraits presque, qui sont comme Mallarmé. Vous savez, Mallarmé c'est abstrait, c'est la musique, mais chez lui, c'est pas seulement la musique. J'ai Mallarmé, c'est la musique. Vous savez, c'est l'abstraction que le ton. Mais chez Paul Celan, c'est toujours derrière une traumata, une chose humaine affreuse.
Oui, un traumatisme.
Les derniers poèmes, vous venez de parler des derniers poèmes de Paul Celan, Anselm Kiefer. On sait que Paul Celan, dont on a réédité l'œuvre en traduction, il n'y a pas si longtemps, on sait qu'hélas, il s'est suicidé. Est-ce que vous avez une interprétation et est-ce que ces derniers poèmes de Paul Celan étaient à l'aune de ce que vous appelez, vous, la mélancolie?
Oui, alors il y a un poème, par exemple, Schwarz-graue Ödnis, ein baumhoher Gedanke, fasse sich den Lichtschein. C'est peut-être faux. Alors, Lichtschein. Es gibt noch Lieder zu singen jenseits der Menschen.
Oui, il y a encore, enfin, le dernier passage, il y a encore des chants à chanter au-delà de l'homme, de l'humain.
Alors là, il fait le saut de notre existence humaine dans une autre sphère, dans la géologie ou dans le cosmos. Il joue toujours avec les mondes. Alors, le monde humain, et le monde dans les montagnes, dans la
géographie,
oui, ou cosmique. Alors, par exemple, dans un poème, je ne sais plus complètement pas que il prend une, qu'est-ce que c'est ça, le petit truc là,
un cil.
Il prend un cil pétrifié, un type pétrifien dans une montagne. Alors il saute d'une petite, petite chose dans les Alpes, dans les montagnes, et c'est fantastique, non? De superposer les différentes sphères de nous. Et ça me plaît beaucoup, parce que ça reste pas chez nous, vous savez, ça reste pas de la poésie engagée, vous savez. Ça va vraiment si loin qu'on puisse aller comme homme.
Paul Celan, vous le savez très bien, Sem Kiefer a fait le voyage en forêt noire pour aller voir un philosophe que vous avez beaucoup lu, beaucoup compris, beaucoup médité, qui s'appelait Martin Heidegger. Et même Paul Celan a fait ce voyage pour essayer de lui faire rendre, si j'ose dire, gorge, et pour essayer de demander à Martin Heidegger de dire pardon à l'Allemagne pour s'être engagé sous les nazis. Je vous propose d'écouter la voix de Heidegger, que vous connaissez très bien. Il va parler du dire poétique et du dire de la pensée. C'est une archive qui n'est pas datée, mais vous allez peut-être pouvoir nous la dater. On entend la voix de Martin Heidegger.
Das Dichten Gesagte und das Denken Gesagte sind niemals.
Ce qui est dit par la poésie et ce qui est dit par la pensée ne sont jamais identiques, mais l'un et l'autre peuvent, de différentes manières, dire la même chose. Cependant, cela ne réussit que lorsque le fossé entre la poésie et la pensée est creusé de façon claire et décidée.
Alors, nous avons notre éminent traducteur.
Si l'abîme entre pensée et poésie est profonde, klaft.
Mm-hmm. Oui, c'est pas le mot. C'est un abîme qui s'ouvre,
oui. Oui, c'est vous. Parce que il dit ce que j'avais dit avant. Mm-hmm. Seulement, la poésie est réelle.
Oui, c'est-à-dire c'est cette distance entre la pensée et le.
Oui, et le man. Il parle de man. Man, de M-A-N. Oui. Man. Ce sont tout le monde.
Oui, c'est le on.
Tout qui nous entoure. Le man et le. La concentration, le poème.
Est-ce que vous continuez à lire Heidegger?
Oui, c'est très difficile. Hein. Mais je...
Vous trouvez votre chemin sans faire de mauvais jeux de mots?
De mauvaises ou quoi?
De mauvais jeux de mots. Parce qu'il a écrit les chemins qui ne mènent nulle part. Oui. Est-ce que vous trouvez votre chemin à l'intérieur de l'œuvre de Martin Heidegger?
Ah oui, quand je lis, c'est Vorlesung.
Oui, c'est une conférence.
C'est une conférence sur Hölderlin. C'est fantastique parce que j'aime beaucoup Hölderlin. Et il donne un autre sens encore à Hölderlin. Et ça me donne beaucoup, je veux dire. Mais vous savez, ce que vous avez parlé au commencement, ils étaient les deux, Heidegger et Celan, ils se respectaient beaucoup. Plus que respectés, ils étaient verehrt.
Oui, ils s'admiraient.
Ils admiraient. Parce qu'il y a des livres de Heidegger chez Celan avec beaucoup de notes et renverse.
Et inverse.
Quand Celan a lu à Fribourg, il était dans le premier rang, Heidegger, c'était clair. Mais Celan a été déçu, profondément déçu, que Heidegger n'avait rien dit de son temps quand il était directeur de l'université de Freiburg. Mm-hmm. Il était seulement deux années. Mm. Une année ou deux années, ce n'était pas longtemps. Mais quand même, c'était une chose. Et là, il était très déçu, Celan.
Et depuis, effectivement, en ce qui concerne l'œuvre de Martin Heidegger, nous avons appris qu'il y avait tous ces carnets, ce qu'on appelait les carnets noirs. Non, vous faites la moue.
Ne
met pas en cause l'œuvre poétique de Martin Heidegger et l'œuvre philosophique de Martin Heidegger pour vous, Anselm Kiefer.
Non. Bah, ça met en cause son caractère humain. Il était feige.
Il était lâche.
Il n'allait pas pour l'enterrement de Husserl. C'était son grand
maître.
Son grand maître, son idole. Et il n'allait pas
à l'enterrement.
Enterrement, parce que il était juif, Husserl, ça aurait été mal pris par les nazis. Alors, ça, c'est une chose humaine. Il était lâche, vous dites, lâche. Et ça, c'est pas bien. Hein. Mais, vous savez, il y a beaucoup de choses qu'il fallait plus lire. Céline, il fallait plus lire. Et tout ça.
Je vais lire quelque chose que vous avez écrit et que vous avez prononcé, Anselme Kiefer. C'était au mois de mai 1990, quand vous avez été reçu en Israël, invité par Yitzhak Rabin à la Knesset, parce que vous aviez obtenu le plus grand prix de ce pays, Israël, le prix Wolf. Vous écrivez ceci. Au 17e jour du 7e mois, l'Arche, la Théba, s'immobilisa sur le mont Ararat, désireux de savoir ce qu'il y avait à l'extérieur de l'Arche, quel était l'état des choses alentour. Noé fit d'abord sortir le corbeau, l'orève, puis les colombes. Après quelques tentatives infructueuses pour trouver la terre ferme, l'une des colombes revint, tenant dans son bec un rameau d'olivier tout frais. L'artiste, lui aussi, a besoin de temps à autre de retrouver le chemin de son arche. Il doit y rester jusqu'à ce qu'il puisse semer les mots pour un nouveau monde. Un petit rameau peut suffire. Alors je voulais vous demander si vous aviez trouvé votre arche aujourd'hui.
Je suis plutôt surpris de nouveau.
C'est vous, ce sont vos mots.
Alors, mon aïe. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que l'artiste est dans une aïe et il envoie parfois des boten.
Oui, des messagers.
Hein. Des messagers pour... Alors, je dirais, je ne veux pas rester dans l'arche, je veux aller moi-même. Je veux être le corbeau.
Je croyais que vous étiez un serpent.
Vous savez, comme le corbeau dans le fantastique, song des résistants. Mm-hmm. Vous savez, c'est fantastique. Et là, il y a les corbeaux.
Mm-hmm. Oui, vous voulez parler du chant des partisans.
Oui. C'est mon chanson. Hein. Mm-hmm.
Le chant des partisans.
Et là, il y a des corbeaux.
Les corbeaux dans la plaine.
Les corbeaux dans la plaine, oui.
Mais je croyais que vous étiez un serpent et que c'était votre animal préféré, le serpent.
Ah oui, c'est ça. Alors, je ne fais pas une liste, une ranking list, hein, mais le serpent m'a toujours accompagné. Toujours. Peut-être à cause du catholicisme, ou, parce que Maria et le sang, vous savez, c'est une image très forte. Tu le sens. Et j'avais une fois. Mais j'avais une fascination et une
répulsion.
Répulsion énorme. Et je voulais curer ça, soigner ça. Et j'ai acheté une boa constrictor. Mm-hmm. Elle était comme ça, 3 semaines. Hein. Et je l'ai nourrie. Mais je ne pouvais pas la toucher. Je voulais la prendre dans la main parce qu'on m'a dit, c'est comme la soie. C'est fantastique, la surface de la peau d'un serpent. Mais je ne suis pas arrivé.
Vous êtes débarrassé comment du boa constrictor? Rassurez-nous.
Ça c'était très, très, très triste. Ça vous intéresse?
Oui.
Je devais donner chaque semaine 2 souris au serpent parce qu'elle avait 7 semaines, elle était comme ça. Alors, une fois, je pensais, c'est bien, je donne 3 souris. Alors, elle a mangé les 2 souris. Vous avez vu ça une fois, comment ça marche? C'est énorme, hein? Et elle a mangé 2 souris, et elle se couchait pour digérer. Et puis, la 3e, c'était une souris dansée dans le truc. Vous savez, elle était idiote. Et le serpent n'avait plus faim. Alors, il a eu une crise cardiaque, le serpent. Imaginez-vous. Non, c'est pas une blague. C'est vrai. Parce que le commerçant qui m'a vendu ce serpent, il a dit il fallait pas donner plus parce que après elle devient nerveuse et puis elle est morte.
Mais c'était votre vœu inconscient que de faire mourir le boa.
Non, jamais je voulais le faire.
Mais
non.
Inconsciemment peut-être.
Non, c'était juste stupidité.
Je suis rassurée parce que je connais votre lieu de vie et de travail à Barjac et je me disais, j'espère que les boas constrictors constituent pas une grande famille au milieu de votre domaine.
Non, là, il y a les serpents plus petits. Ah. Mais venimeux. Venimeux, oui. Non, là, il y a des serpents.
Où vivez-vous maintenant? À Croissy? Vous avez un atelier immense qui était les anciens locaux de la Samaritaine?
Oui, mais...
Où vivez-vous toujours à Barjac, qui est une sorte de lieu, de création?
Je travaille toujours à Barjac, alors je construis des maisons, des tunnels.
Beaucoup de tunnels. Oui, d'ailleurs, oui. Pourquoi enterrez-vous vos œuvres ?
Non, je n'enterre pas mes œuvres.
Bah, vous les cachez quelquefois.
Je cherche une... Vous savez, il y a le livre fameux de... c'est qui ? The Underground Railway. From the...
Vous connaissez Underground Railway.
C'est un livre fantastique. Ce sont les
Noirs. C'est pire que le jeu des 1000 francs que de vous interviewer. Hein.
Non. Ce sont les Noirs qui se sauvent vers le nord, en Amérique. Parce que Texas est affreux pour les Noirs, mais en haut, il y a déjà la libération dans le nord. Mais c'est qui ? C'est un livre fantastique.
On va vous trouver.
Underground Railway.
Attendez, on va nous le dire tout de suite.
Whitehead.
C'est
Whitehead.
Colson, vous venez de trouver
Whitehead. Yeah.
Colson Whitehead.
Yeah. Parfois, ça revient.
Ça marche hein, dans la tête. Hein.
Il y a Stolperstein.
Oui, il y a des Stolperstein, c'est les petites pierres sur lesquelles on trébuche.
Oui, je ne me souviens plus.
Donc Barjac, c'est le lieu de... Alors, c'est votre territoire le plus intime.
Attendez.
Vous avez 30 ou 40 ans de vie à Barjac.
Vous m'avez demandé sur les tunnels. Alors, je crois que je voulais une underground railway retournée en Allemagne.
En creusant des tunnels à partir de Barjac jusqu'à l'Allemagne.
Oui.
Bon, et vous avez commencé d'ailleurs. Mais peut-être arriverez-vous avant votre mort.
Il y a
mort.
Plusieurs directions de le tunnel. Il y a aussi les directions du nord, c'est vers Paris.
Mais vous avez l'air en forme et très joyeux. Moi qui vous pensais très mélancolique, Anselm Kiefer.
Pourquoi ?
Mais je ne sais pas, parce que vous avez des théories sur la mélancolie et que la mélancolie est féconde chez
quand
vous.
Quand on a absolument désespéré, il faut être ironique, il faut être joyeux, non ?
Ah, ça veut dire que vous êtes très faussement joyeux et très mélancolique.
Non, faussement joyeux, non, je suis faussement joyeux. Alors, je vais retenir ce mot, faussement joyeux.
Mais en tout cas, merci infiniment. On va continuer une autre fois parce que c'était trop court. Hein.
Oui, on a juste commencé. Hein.
En tout cas, double actualité pour vous. J'espère que vous êtes en forme par rapport à cette double actualité. Donc, au Palais éphémère.
Oui.
Avec la galerie Thaddeus Ropack, mais oui. Aussi, jusqu'au mois de mars, une nouvelle exposition de vous à la galerie Thaddeus Ropack. Merci infiniment, Anselm Kiefer, et merci à notre traducteur qui s'est montré
Je le laisse plus jamais partir, il est très bien. Hein.
Il va vous accompagner partout. Merci beaucoup.
Okay.
Put your red boots on, baby, giddy up. Baby wants to dance, baby gets away. Dreaming nights, talk to me with that whiskey breath. Tour me twice, I'll treat you like a holiday. And don't say you're over me. When we both know that you ain't. Don't say you're over me. Baby, it's already too late. Just do what you do best with me. Dance me all around the room. Spin me like a ballerina super high. Me all around the moon. Light me up like the 4th of July. Once, twice, three times the guy I ever thought I would meet. So don't say you're over me when we both know that you lie. If you lie down, lie next to me. You lie down, lie next to me. La 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 la. When you lie down, lie next to me. Get your jacket on, be a gentleman.
Get into your truck and pick me up, hey. Cause we were built for the long haul freight train. Burned by fire without try like a stowaway. And don't say you're over me when they all know that you ain't. If you lay down, lay next to me, dance me all around the room, spin me like a ballerina super high, dance me all around the moon like six times till I'm sick and I cry. Once, twice, three times the guy I ever thought I would meet. So don't say you're over me when they all know that you're lying. If you lie down, lie next to me.
C'est avec Lana Del Rey que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Guillaume Roux qui est à la régie technique ce soir. Merci à vous Anselme Kiefer. Je rappelle votre double actualité. Pour Paul Celan, c'est en ce moment même au Grand Palais éphémère à Paris et jusqu'au 11 janvier, en partenariat avec la galerie Tadeusz Ropak. Puis une exposition à la galerie de Pantin, la galerie Tadeusz Ropak de Pantin, commence ce 9 janvier et jusqu'en mai 2022. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer et Marie Clément. Et merci à Lilian Alaume qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission.